l'atelier de l'histoire.
22 septembre 1960, indépendance du Mali.
Mémoire d'un continent. Isabelle Godineau, Elikiam Bokolo.
Dans l'effervescence de 1960, le nom de Mali résonne avec un éclat singulier. C'est simplement tout le passé glorieux du continent africain qui surgit. Par rapport au vent nouveau qui souffle sur le continent, ce nom apparaît en tout cas plus conforme, mieux adapté que le nom de Soudan français, nom qui lui-même était tiré de l'arabe Bilad as-Soudan, appellation qui voulait dire le pays des Noirs et qui, évidemment, dans le contexte de l'Afrique ancienne, était porteur de connotations plutôt négatives. Il faut dire que Bamako, la capitale du Soudan, avait joué un rôle très important dans le processus d'émancipation. C'est là, à Bamako, que en octobre 1946, avait été réuni le fameux congrès fondateur du RDA, le Rassemblement démocratique africain, le grand parti qui voulait réunir tous les Africains de l'Afrique française contre la colonisation. Mais il faudra du temps pour que le RDA, fondé à Bamako, s'impose au Mali. Jusqu'au milieu des années 50, la vie politique de la colonie est en effet dominée par la rivalité entre deux personnalités régulièrement élues d'ailleurs l'une et l'autre à l'Assemblée nationale française, Mamadou Konaté de l'Union soudanaise, section du RDA, et Philly Dabo Sissoko du Parti progressiste soudanais, à l'époque le premier parti du pays. Entre ces deux instituteurs, tous les deux très brillants, tous les deux diplômés de la fameuse école normale William Ponty, les divergences étaient minimes. En tout cas, le programme économique très ambitieux que présente Philly Dabo Sissoko le 31 mars 1951 était de nature à recueillir l'assentiment général des Soudanais.
On commence à voir grand à l'échelle du continent. Or, qui parle de l'Afrique parle de l'Union française. Quels sont donc les buts à rechercher dans l'industrialisation de l'Afrique et l'évolution agricole de l'Union française ? À mon sens, l'évolution agricole et l'évolution industrielle de l'Afrique sont fonction de son évolution démographique et sociale. La recherche du bien-être des populations autochtones est le seul but, la seule fin. L'évolution agricole et industrielle de l'Afrique ne peuvent en conséquence avoir d'autre fin que l'enracinement au sol des populations africaines et la possibilité pour elles de se développer harmonieusement sans à-coups au sein de l'Union française. L'insertion du potentiel agricole et industriel de l'Afrique doit être menée non point en fonction d'intérêts extérieurs à l'Afrique, mais de ses intérêts propres. Il s'agit surtout, en effet, de sauvegarder l'intérêt des populations autochtones. Ceci implique un problème d'éducation des masses, d'où la nécessité d'un enseignement technique. Et il m'est agréable de constater que dans ce domaine, le Soudan a pris le devant. L'évolution agricole et industrielle doit marcher de pair avec l'évolution sociale des autochtones, orientée dans le sens de leurs intérêts propres.
Les perspectives de développement ne manquent pas, en effet. La société soudanaise des années 50 surprend très positivement les visiteurs. Écoutons Pierre Paraf de retour d'un voyage au Soudan le 24 juin 1955.
Le Soudanais passe pour l'enfant studieux, appliqué de la fédération de la OEF dont le Soudan doit devenir un jour le grenier. Il passe aussi pour l'homme à la tête chaude qui ne craint pas les positions politiques et syndicales les plus extrêmes. C'est ainsi que les travailleurs soudanais réclament avec beaucoup d'énergie un minimum vital décent et la suppression des zones de salaire. Mais entre ces deux images, qui ne sont pas toujours contradictoires, on s'accorde à reconnaître la sagesse volontiers malicieuse du soudanais, car il excelle à plaisanter, se sent bien vite en confiance avec le visiteur dont il devine la sympathie. Bamako, sur le Niger, est l'une des villes les plus pittoresques de la fédération. Son marché apparaît comme un véritable éblouissement de couleurs avec les boubous éclatants des femmes, les légumes magnifiques, les poissons refaits bleutés, les épices colorées. Les rues de Bamako offrent le spectacle d'une intense circulation avec une file ininterrompue de bicyclettes telle qu'on n'a pas coutume d'en voir en Afrique noire française. Bamako compte tant de cyclistes qu'on est allé jusqu'à l'appeler la Copenhague africaine.
Parmi les innovations de ces années 1950 figure la radio. Radio Soudan est inaugurée le 4 septembre 1957. Pierre Schaeffer, directeur de la SORAFOM, la société de radiodiffusion de la France d'outre-mer, décrit et explique les solutions nouvelles qui devront exister entre la SORAFOM et les radios de cette Afrique en mouvement.
Cette Sorafom propose à l'Afrique nouvelle des solutions hardies, parfois originales et même pouvant apparaître inattendues. Elle propose en effet de remplacer certaines relations d'autorité héritées d'un certain paternalisme ou colonialisme par des relations modernes, celles de l'assistance technique, qui peuvent même emprunter par une expression prosaïque le terme de relation de fournisseur à client. Je n'ai pas peur de cette expression et je dirais qu'il nous paraît honorable, quant à nous, professionnels de la radio, d'être de bons fournisseurs qui s'efforcent de satisfaire, messieurs, le client que vous êtes.
Parmi ces clients se trouvent naturellement ceux qui se considèrent comme les futurs dirigeants du Soudan français, et parmi eux, le plus connu et sans aucun doute, Modibo Keïta, qui est secrétaire d'État dans le gouvernement français. C'est l'homme qui monte, et c'est lui qui va désormais dominer la vie politique au Soudan. Celle-ci a connu en effet une brusque accélération à partir de 1956. Aux élections de janvier 1956, la liste de l'Union soudanaise, section du RDA, a pour la première fois dépassé celle du Parti progressiste soudanais. Les deux élus RDA sont le vétéran Mamadou Konaté, 60 ans, et le jeune Modibo Keïta, 40 ans. Mais Mamadou Konaté est emporté en 1956 par une hépatite, et c'est Modibo Keïta qui devient l'indiscutable numéro 1 de l'Union soudanaise et l'indiscutable numéro 1 du Soudan. Modibo est un instituteur. Lui aussi, ils le sont tous, diplômé de l'école normale William Ponty, militant chevronné, redoutable, régulièrement élu d'ailleurs depuis la fin de la guerre, conseiller général, puis conseiller de la République. Et le nouveau député de 1956 va connaître une ascension tout à fait fulgurante. En novembre de cette année, il devient le premier maire de Bamako. Il est rapidement nommé secrétaire d'État à la France d'outre-mer, donc il la rend de ministre, pour devenir ensuite secrétaire d'État à la présidence du Conseil, c'est-à-dire secrétaire d'État auprès du chef du gouvernement. C'est à ce titre que, le 19 mars 1958, il conclut la conférence économique organisée par la Chambre de commerce de Marseille.
Nous avons affirmé à Bamako et à maintes circonstances que quoi que nous ayons, nous aussi, notre droit à l'indépendance, parce que c'est la vocation naturelle de tout peuple colonisé, nous avons pensé que dans l'intérêt de nos populations, de celles qui nous ont fait confiance et qui attendent que notre administration leur apporte une amélioration très sensible dans leur mode de vie, nous avons préféré à l'usage de ce droit une association intime, fraternelle avec la France. Parce que si l'on dit que l'Afrique est la chance de la France, nous devons également affirmer, nous aussi, que la France est la chance de l'Afrique. Et je ne voudrais pas qu'on minimise l'option politique que l'Afrique a faite. Parce que si l'Afrique ne devait considérer ses rapports avec la métropole que simplement sur le plan des intérêts, elle aurait pu tourner ses regards vers d'autres pays dont la puissance économique dépasse de beaucoup celle de la France. Mais à cette abondance de richesses qui parfois, hélas, ne tient pas compte de la dignité de l'homme, nous avons préféré notre association avec la France. Dussions-nous, dans cette association, mener une vie beaucoup moins aisée, mais où nous aurons quand même la satisfaction de nous sentir des hommes.
Ce programme politique à la fois ambitieux et modéré va être bousculé par le retour au pouvoir du général de Gaulle après les événements du 13 mai 1958. Quelle sera la position de l'Union soudanaise RDA lors du référendum constitutionnel proposé le 28 septembre 1958 et soumettant aux électeurs africains l'idée de la création d'une communauté qui remplacerait l'Union française? Réponse de Modibo Keïta à la suite de l'Assemblée générale de son parti le 10 septembre 1958.
À l'unanimité, l'Assemblée générale a décidé d'inviter tous les militants et toutes les militantes à répondre et à faire répondre oui. Pour en revenir au projet constitutionnel, qu'est-ce que celui-ci nous offre? Premièrement, l'indépendance immédiate le 28 septembre en votant non. Deuxièmement, l'autonomie complète assorti de la reconnaissance du droit de libre détermination, du droit à l'indépendance, de la possibilité d'user de ce droit à tout moment, de la possibilité de la révision de la liste des affaires communes, soit pour l'allonger, soit pour l'élaguer. Troisièmement, la faculté pour les États autonomes d'adhérer à la communauté, soit isolée, soit groupée, et cela en votant oui. Soudanaises et Soudanaises, à tous ceux qui ont à cœur la grandeur et la prospérité de notre territoire, membres et sympathisants de l'Union soudanaise ou d'autres formations, nous vous invitons à vous mobiliser en faveur du oui qui consacrera l'indépendance de notre territoire dans la communauté africaine, l'un des piliers de la grande communauté que nous construirons avec la France.
À partir de ce moment, on voit se préciser et parfois se durcir le grand débat sur l'unité africaine. Comment, pourquoi, avec qui? Modibo Keïta est élu dès le mois de janvier 1959, président du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française. Il se pose aussitôt en champion de l'unité. C'est son premier discours en tant que président, prononcé le 10 janvier 1959.
Notre Afrique, pacifique et humaine, contre vents et marées, mobilisera toutes ses ressources pour réaliser son unité, garante de la cohésion de la communauté. Le gouvernement général de l'Afrique occidentale française est créé par un décret de 1895. Il a rapproché l'homme de la forêt de celui de la savane, celui de la côte de l'habitant des terres intérieures. Il a créé un ensemble de liens économiques et humains. Malgré 64 ans de brassage, le Sénégalais est parfois considéré comme un étranger lorsqu'il franchit les limites de son territoire. L'Ivoirien ne se sent pas souvent à l'aise lorsqu'il a quitté l'ombre des épaisses frondaisons de la forêt. Au moment où l'on dénonce le nationalisme comme dépassé dans ce siècle de l'internationalisme, où l'isolement est mortel aussi bien pour les vieux pays que pour les jeunes, où les appels à l'union fraternelle des peuples sont démentis tragiquement par les événements, devons-nous donc choisir ce moment pour exacerber les particularismes locaux, multiplier les causes de frictions et d'incidents, nier à l'Ivoirien, aux Soudanais, aux Mauritaniens, aux Dahoméens, aux Sénégalais, aux Nigériens, aux Voltaïques, droit d'établissement, droit de vie parce qu'il n'est plus dans les limites de son pays d'origine? Non, mille fois non. Il faut que par notre seule volonté, notre seule action d'Africains ne souffrant d'aucun complexe, nous donnions corps et vie à ce que le régime colonial a édifié et qui a accéléré notre prise de conscience africaine, la Fédération d'Aouef.
Il ne s'agit pas seulement, bien sûr, de consacrer l'une des réalisations de la colonisation. Il s'agit aussi, pour Modibo Keïta, de renouer les fils de la longue histoire de l'Afrique en donnant à cette union un nom approprié. Discours de Modibo Keïta, le 17 janvier 1959.
Le 14 janvier 1959, vous avez siégé à Dakar pour construire la Fédération du Mali. Le Mali, nom prestigieux qui appartient à toute l'Afrique occidentale, vocable, imprimant déjà dans les cœurs et les esprits le sceau mystique de la grande espérance de demain, l'édification d'une grande nation africaine.
Cette fédération du Mali devait, pour commencer, regrouper quatre territoires. Le Sénégal, le Soudan, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, et le Dahomey, aujourd'hui Bénin. Mais très vite, la Haute-Volta et le Dahomey vont faire sécession, poussés dans cette voie par la Côte d'Ivoire. Le 15 mai 1959, Modibo Keïta précise l'origine et la nature de ses désaccords avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avec Félix Houphouët-Boigny.
Ce désaccord avec le président Houphouët est assez récent parce que en août 1958, nous nous sommes retrouvés dans la salle d'hospitalisation du président Wesen Koulibaly et au cours d'une confrontation, le président Houphouët avait donné son accord sans réserve à la construction des fédérations AOF et AEF. Et quelques jours avant le référendum, exactement le 19 septembre 1958, il a signé une circulaire qui précisait nettement qu'après le référendum, le RDA prendrait l'initiative de réunion pour la construction des fédérations d'AOF et d'AEF. C'est après le référendum que M. Offouette est revenu sur les engagements qu'il avait pris auprès de ses amis fédéralistes.
Réduite à deux États, le Sénégal et le Soudan, la Fédération du Mali n'aura pas une longue vie. Pourtant, elle ne manquait pas d'atouts, un vaste territoire, plus de 1 450 000 km², une population nombreuse, 6 millions, avec une fécondité élevée, un passé et une mémoire largement partagés par les habitants, plus une complémentarité indiscutable sur le plan de la géographie et de l'économie. C'est le 13 décembre 1959 que le général de Gaulle, invité au Sénégal, donne son accord pour l'indépendance du Mali. Le 4 avril 1960 intervient le transfert des compétences de la communauté à la fédération et le 20 juin 1960, la fédération du Mali devient indépendante, une structure assez curieuse avec deux états, deux gouvernements à Dakar et à Bamako, mais des institutions communes, une présidence du gouvernement assurée par Modibo Keïta et une présidence de l'Assemblée assurée par Léopold Sédar Senghor. Tout cela s'effondre d'un coup dans la nuit du 19 au 20 août 1960. À chacun son explication. Voici celle de Modibo Keïta dans une conférence de presse du 2 septembre 1960.
D'aucuns peuvent prétendre que toute cette situation avait été créée au sujet des élections présidentielles. Il n'en est rien. Elle est la conséquence d'un divorce profond entre M. Senghor et nous sur le plan économique, politique et social. M. Senghor et ses amis n'entendent nullement révolutionner les structures économiques dans le sens d'un véritable socialisme africain. D'autre part, il recule devant l'effort de chercher des débouchés à nos produits en dehors de la zone franc pour atteindre un équilibre de notre balance de devises. M. Senghor me fait le reproche d'avoir préconisé à Monrovia une zone monétaire africaine comme si cette évolution souhaitée par tous les Africains n'est pas la conséquence logique de la création d'un marché commun africain tel que cela a été souhaité par le comité directeur du Parti de la Fédération africaine, dont M. Senghor est le président. Il me tint également grief de mes déclarations sur le problème algérien qui s'inscrit dans le cadre de l'action de décolonisation de l'Afrique sur le plan social. Alors que nous sommes pour l'africanisation des cadres, M. Senghor, sous le prétexte d'éviter une africanisation au rabais, veut africaniser les Blancs. Alors que le Sénégal a des cadres nantis de toutes les références, mais qui demeurent inemployés ou sous-employés. À la liste des griefs, il y a lieu d'ajouter les mesures d'austérité prises par le gouvernement du Mali au chemin de fer, au port, dans l'attribution des logements, politique d'austérité arrêtée par le comité directeur du Parti de la Fédération africaine.
Le 22 septembre 1960, c'est un simple communiqué de Radio Mali qui annonce officiellement l'indépendance de la République du Mali.
Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960, est née la République du Mali. Une république indépendante, absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France. La séance du congrès de ce matin s'est tenue dans une salle du Collège technique de Bamako, largement pavoisée aux couleurs maliennes et dont les murs étaient tapissés de slogans tels que « Plutôt la mort que la honte, nous tiendrons notre serment, travail, discipline, vigilance, renforcement de l'organisation politique, mobilisation active au service du développement ».
Visiblement, le ton n'est pas à la fête et on comprend pourquoi. Que va-t-on faire de ce Mali amputé, réduit au seul Soudan français ? Se replier sur soi ou au contraire s'ouvrir vers ces autres États qu'on commence à appeler États progressistes? C'est sur cette question que nous nous quittons et nous nous retrouverons dans une prochaine émission sur les indépendances africaines. Émission réalisée par Isabelle Godineau, à la technique Cyril Etienne.